Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Justine au micro et aujourd'hui, je t'emmène en Australie pour un road trip avec Joe. Salut Joe, comment ça va?
Salut Justine, bien à toi.
Oui, ça va super. J'ai hâte que tu nous racontes toutes tes aventures. Et je sais que tu es donc allé en Australie, mais tu es particulièrement allé en Tasmanie. Et j'ai vraiment envie que tu nous racontes la Tasmanie en particulier. Est-ce que tu peux déjà nous dire, on rentre dans le vif du sujet direct, mais est-ce que tu peux déjà nous dire où ça se trouve exactement la Tasmanie par rapport à l'Australie?
Alors, bonne question, parce que moi-même, je ne savais pas que ça existait, la Tasmanie, quand j'y suis allé. La Tasmanie se trouve au sud-est, en dessous de Melbourne. C'est-à-dire, vraiment, vous imaginez l'Australie, en bas à l'est, Melbourne, et vous continuez encore un peu plus dans le sud, vous trouverez une petite île sur la carte abandonnée qu'on ne regarde jamais, et ça s'appelle la Tasmanie.
Ok, donc quand tu regardes la carte de l'Australie, Melbourne, c'est au sud-est.
Sud-est, exact.
Si je ne me trompe pas, à l'ouest, il y a Perth.
Exact.
Et donc, en dessous Melbourne, tu as une île qui est à combien de temps à peu près du continent?
Ah, bonne question. Si je me souviens bien, c'est à quelques heures. Ça dépend comment tu y vas. Nous, on était en ferry. En fait, de Melbourne, tu peux prendre le ferry. Tu peux y aller en voiture ou tout seul avec ton sac. Et il t'emmène soit durant la nuit, soit le jour, direct sur l'île, au nord de l'île, en fait.
D'accord. Ok. Et donc, toi, tu y allais comment, avec qui, dans quel contexte?
Alors, j'y suis allé avec un ami d'enfance en ferry. On est parti le soir, on a pris le ferry de nuit et on est parti avec notre sac à dos, un peu à l'improviste, inattendu, parce que de base on connaissait pas l'île, on savait pas ce que c'était, mais c'était un ami qui travaillait dans des fermes sur cette île, qui nous a raconté que cette île était merveilleuse, qu'il fallait absolument venir et qu'on allait voir des choses incroyables. Et on s'est dit, bon, on est déjà en Australie, c'est déjà incroyable, on voit des kangourous, mais c'est encore mieux, on va y aller. Et donc on a pris le ferry, on est allé du jour au lendemain en Tasmanie.
D'accord, ok. Et alors, pour les gens qui nous écoutent, un petit peu le contexte, t'es parti combien de temps au total en Australie et dans quel cadre? C'était un voyage pur et dur ou tu travaillais aussi?
Dans le cadre, en soi, c'était après mes études. On avait fini nos études et on s'est dit, bon, avant de rentrer dans la vie active, avant de passer 35 heures à 40 heures par semaine à bosser devant un bureau, dans un bureau, on s'est dit, on va partir loin et le plus loin possible. Et c'était l'Australie. Et comment ça s'est fait? Tout simplement, on a regardé et on a pris nos billets et on voulait bosser également sur place parce que on avait pris un visa de semi-travail, c'est Working Holidays. Donc, c'est un visa que tu peux prendre facilement en ligne et tu peux booker et partir dès que tu as l'autorisation. Et tu peux travailler, que ce soit en ferme, partout, ce que tu veux, en Australie pendant un an. Et c'était bien dans cette optique-là aussi, également, surtout que dans mon cas de figure, en fait, il s'est avéré que j'ai eu des petits soucis juste avant de partir. Donc, je suis parti avec pas grand-chose, à part mon sac, et un peu d'argent sur le compte. Et on était vraiment dans l'optique aussi de chercher du travail, d'où la raison que mon ami qui nous a appelé, qui disait, là, il y a du boulot, venez dans nos fermes en Tasmanie. On s'est dit, bon, bah écoute, l'aventure continue, et c'est comme ça qu'on est arrivé là-bas.
D'accord, c'est comme ça que tu as atterri en Tasmanie. Et alors, raconte-nous un peu le relief, parce que moi, je n'imagine pas du tout, je ne me rends pas compte vraiment de la nature, de ce qu'on peut y voir. Donc, c'est comment la Tasmanie?
Alors, comment expliquer? La Tasmanie, déjà d'une, c'est une toute petite île en termes de superficie. Faut imaginer, j'avais regardé à l'époque, c'était un peu la taille du Portugal, plus petit que le Portugal. Donc, très petit. Tu peux facilement faire en une journée ou deux d'un côté de l'est jusqu'à l'ouest en voiture. Après, en termes de paysage, comment décrire, en fait, en simple, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un paysage aussi magnifique, aussi simpliste, aussi naturel, aussi incroyable et de couleur qu'en Tasmanie. Pourquoi? Parce que quand on va en parler, il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde et c'est des choses que tu trouveras nulle part ailleurs, à part là-bas.
Et pourquoi c'est des choses, justement, quelles choses tu avais vues, quel paysage tu as pu voir?
Pour commencer, les paysages. Alors, faut que tu saches que un tiers de l'île, en fait, c'est que de la nature sauvage. Et c'est avéré que on le savait pas non plus. Quand on a cherché sur Google, c'est quoi la Tasmanie, il y a quoi? En fait, un tiers de l'île fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça en dit pas mal. Et c'est avéré que en termes de paysage, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Quand je disais, c'est pour les cyclistes, pour les randonneurs, pour faire du camping sauvage. T'as des parcs, t'as des lacs, t'as des plages, t'as de quoi faire des randonnées pendant des heures et des jours sur l'île. Et tu vas voir, t'en auras plein les yeux parce que t'as des montagnes où tu vois de la neige, tu redescends, t'as de la chaleur, t'as un lac, t'as des plages, et t'as l'impression que tu réunis, en fait, et c'est pour ça qu'ils appellent ça aussi une île où il y a les quatre saisons, c'est que t'as l'impression d'avoir les quatre saisons réunies sur une île. En fait, du jour au lendemain, il peut faire super froid la nuit et il peut faire super chaud jusqu'à 30 à 40 degrés durant le jour, mais c'est dû au climat qui est sur l'île. Et une autre chose aussi, c'est que moi qui suis un peu de ville, on va dire, je suis de Paris et de Berlin, et c'est avéré que la pollution, ça a toujours été un cas pour moi où je suis un peu sensible du nez, on va dire, et c'est avéré que là-bas, l'air, et je revérifiais, c'est vraiment un des endroits où l'air est le plus pur du monde.
Ah ouais, toi tu l'as ressenti, tu sentais que tu respirais mieux.
Je le savais pas, mais je l'ai senti sur place à tel quel point c'était simple de respirer. Moi j'ai, en cours j'ai des problèmes de respiration et il s'est avéré que là-bas c'était vraiment le bonheur pour mon nez, on va dire, parce que je respirais de à perfection, je sentais la nature. C'est ça qui est aussi beau, hein, quand tu pars là-bas et que tu vas aller dans la nature, tu sens la nature, tu vois à quel point c'est sauvage et pas débordé de touristes, surtout.
Parce que oui, il n'y a pas trop de touristes, parce que justement, l'Australie, on sait qu'il y a quand même pas mal de Français qui vont en PVT, donc Working Holiday Visa, et puis pas que des Français, des Européens et partout dans le monde. Ah. Donc tu te dis, est-ce que c'est une île hyper connue où tout le monde va, ou est-ce que justement, toi, tu as vraiment ressenti que c'était ce côté plus
insolite,
plus atypique, où il y a moins de gens?
Oui, franchement, c'est vrai que si on demande, on regarde autour de nous, la plupart, quand ils partent en Australie, on a l'impression que tout le monde part en Australie ou en Thaïlande ou je ne sais où. Mais la Tasmanie fait vraiment partie des endroits où j'ai l'impression que personne n'en parle. Peut-être que parce que c'est tellement secret et insolite et merveilleux que personne ne veut en parler. Mais en tout cas, je pars à ma connaissance et j'espère qu'à ce jour, il n'y a toujours pas autant de touristes qu'il y avait à l'époque. Enfin, il n'y en avait pas autant, pardon. Et j'espère que ça reste ainsi. Mais je recommande absolument d'y aller pour ceux qui veulent découvrir des paysages et des animaux incroyables.
Et donc justement, en termes de paysage, tu m'as dit qu'il y avait des montagnes avec de la neige. Donc absolument. Ça veut dire que tu peux faire des randonnées et avoir éventuellement un point de vue depuis certaines montagnes.
Alors, faut savoir qu'au cœur de la Tasmanie, il y a des montagnes qui s'appellent la montagne Cradle Mountain, très connue. C'est la petite pépite aussi de la Tasmanie. Tu montes en haut, tu peux partir le matin ou en soirée pour faire le lever du jour ou le coucher du soleil. Et tu fais une randonnée de plusieurs heures, tu montes en haut. Alors oui, il y a de la neige selon la saison, hein, j'imagine, parce que nous, on y était pendant 3-4 mois, facile.
Et à quelle période ?
Alors nous, on y était durant la période entre janvier et avril.
Okay.
Et il faut s'imaginer, on se dit pour nous les Français, c'est l'hiver, normal, mais là-bas non, c'est pas l'hiver en fait. Il faut savoir qu'en Australie, si je me trompe pas, c'est la période d'été commence à partir d'octobre-novembre. Donc proportionnellement, tu te dis en fait c'est quoi, c'est l'hiver, l'été, en fait c'est un peu de tout, mais là-bas c'est surtout l'été, mais la nuit il fait très froid et c'est surtout à partir de février, mars, avril que l'hiver commence réellement en Tasmanie. Donc on a eu la chance peut-être de se retrouver entre deux, parce qu'on a vu des parties avec de la neige, des parties sans, mais quand on y était, il y en avait très peu, mais c'était quand même agréable, parce que quand tu montais tout en haut, bah, il faisait frais, il faisait bon, bon c'est normal, c'est le matin, mais tu as le paysage à tes pieds, et ce qui est incroyable aussi, c'est, faut t'imaginer, tu es en haut de la montagne, et tu vois du sable, tu vois de la forêt, tu vois des montagnes, tu vois un lac, tu as un peu de tout réuni, et c'est pas qu'une seule vue. Donc franchement, ça je recommande si vous allez en Tasmanie, enfin si t'y vas.
D'accord, ok. Et donc ça, c'est une rando que t'as fait avec un guide ou tu peux le faire en autonomie, tout seul?
Alors ça, on l'a fait avec un guide. C'est recommandé. D'ailleurs, je crois que je sais pas si tu peux certainement y aller tout seul, mais c'est vraiment recommandé parce que le guide, il connaît les petits coins, la petite randonnée par cœur, par où il faut passer, qu'est-ce qu'il faut voir, regarder. Et c'est bien plus agréable parce qu'il te prépare même le petit-déj sur un plateau dès que t'arrives en haut et t'es heureux.
Ouais, et tu peux admirer la vue avec le petit-déj.
C'est ça. Exactement.
D'accord, ok. Donc ça, c'est une des activités que t'as fait sur place, mais t'as pas fait que des activités puisque t'as bossé aussi. Absolument. T'as bossé donc dans des fermes de quoi ?
Alors, j'ai un peu tout fait là-bas, pour être franc, parce que faut savoir que, comme j'ai dit au début, j'avais pas d'argent, et la priorité pour moi, c'était d'abord d'avoir des sous. Donc, on a rejoint notre ami qui travaillait dans les pommes. Donc, on a commencé avec des pommes, à récolter des pommes, les arbres et des pommes qu'il faut récolter. Et comment ça fonctionne, c'est en pleine chaleur, faut récolter les pommes à la main, t'as ton sac accroché, et tu dois remplir des bennes.
Alors justement, je te coupe parce que effectivement, oui, tu parles de pleine chaleur et c'est vrai qu'on parle de montagne, on parle de relief, oui, de plein de reliefs différents et donc de saisons différentes. Mais donc toi, tu as eu jusqu'à combien de degrés là-bas? Parce que sur le continent, en Australie, on imagine du ressenti 35, ouais, voire 40, j'imagine. Là, tu as eu chaud, il faisait comment? C'était humide ou...
Bah, il faisait chaud, en tout cas, ça c'est sûr. Faut s'imaginer, quand on y était, c'était la période des quatre saisons, hein, dire, c'est que la nuit, il pouvait faire très froid, et surtout qu'on dormait dans des tentes encore au début. Donc, il pouvait faire froid jusqu'à du moins 5, moins 10 degrés. Ça pouvait arriver, ah oui, mais c'était encore assez rare, mais ça allait jusqu'au zéro quand même. Hein. Et en pleine journée, par contre, vers midi, 13h, c'était en plein cagnard, il pouvait faire facilement au-dessus de 35 degrés. Et ça, au soleil, pas un nuage. Donc au final, tu te retrouves limite avec ton manteau d'hiver la nuit à te l'écailler dans ta tente et à midi, à poil, en slip, comme tu peux pour...
accueillir tes pommes.
Accueillir ta pomme. Tu cueilles tes pommes à poil. Voilà, c'est ça.
Ok, donc du coup, tu as fait la cueillette de pommes et donc plein d'autres fruits, j'imagine. C'est ça un peu le ferme. Quand tu dis j'ai fait les fermes, oui, c'est vrai que nous, on n'imagine pas.
C'est pas les fermes où tu te dis, bon, moi, tu travailles pendant 2 mois à la chaîne à récolter des pommes. En fait, tu t'adaptes aux températures, à la saison. Donc là, quand on est arrivé, c'était en fin de période des pommes. Et ensuite, on attaquait il y avait les raisins, il y avait les blueberries, il y avait les fraises. Ça, je crois que c'était pas déjà la grande partie des fermes qu'on a faites, donc c'était déjà quand même pas mal parce que c'est plusieurs semaines de chaque. Mais à chaque ferme, on va dire, ou chaque fruit, son expérience, parce que les pommes, bah oui, c'était dur et lourd, on va dire, parce que quand tu te rends mal les sacs tous les jours pendant plusieurs heures, remplir tes bennes parce que t'es payé au rendement, faut le savoir, t'es payé à l'heure.
T'es payé au poids, en fait, c'est ça?
T'es payé au poids. Exactement. D'accord. Donc du coup, déjà, c'était nouveau pour nous. Et nous, on s'est dit, mais c'est génial. Enfin, t'es rémunéré par rapport à ton travail et pas par rapport à l'heure. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on remplissait nos bennes et les premiers jours, on se rendait compte, mais en fait, on est super lent. On se faisait pas beaucoup d'argent. On remplissait une benne, mais une benne, ça représentait quoi, 100-120 dollars, donc 100, on va dire 100 euros. T'es content. Mais quand tu vois que tes voisins, ils te remplissent 2-3 bennes, t'es là, bon, bah, je peux faire mieux aussi. Donc, à force, bah, bien sûr, on était du coup, avec mon ami et une autre amie qui nous avait rejoint aussi dans l'aventure, on s'est fait un système d'équipe. On essayait tout. Hein. On essayait de faire un système d'équipe. On s'est dit, parce que tu peux aussi travailler en équipe, remplir une benne. Donc, on se motivait. On était là, allez, vas-y, on va remplir la benne en 1 heure. Après, on en fait 5. Bon, au final, en fin de compte, t'en fais que 3-4. Mais ça revient au même que si tu étais tout seul. Mais
c'était plus motivant.
Ouais. C'était plus motivant, c'était marrant. Et t'as plus la niaque aussi quand tu sais que tu travailles en équipe et t'es essaye de faire le plus possible et tu vides ça d'argent. Donc, c'est différent aussi.
Complètement. Et c'était facile de trouver sur place ce job-là? Enfin, dans les fermes, tu te pointes et il y a du boulot ou...
Oui et non. En fait, c'est... beaucoup de chance, on va dire, et du networking, on va dire aussi également. Parce qu'en fait, on avait un ami qui était déjà dans les pommes, qui avait trouvé sa petite place, à mon avis, via un autre ami ou une connaissance qui voyageait aussi. Parce que ça se fait beaucoup en bouche à oreille entre les backpackers. En fait, ça se partage les plans, on va dire. C'est comme à Paris, quand tu bosses dans une entreprise, bah, tu as ton collègue qui te dit, vas-y, viens chez nous, c'est encore mieux. Bah, du coup, c'est la même chose dans les pommes et les fruits. On se partage les infos et en fonction des rémunérations, donc on y va. Et les pommes, on avait eu du coup notre ami qui y travaillait déjà, donc on a eu de la chance, on pouvait vite travailler. Après, c'était fini et on changeait. Donc là, on faisait du porte-à-porte. On regardait aussi sur le site Gumtree, ça s'appelle, c'est comme le Bon Coin en Australie. On cherchait Gumtree, des annonces. Okay. Ouais, on cherchait des annonces parce que les agriculteurs postent aussi, publient des annonces pour chercher des agriculteurs, des jeunes qui veulent récolter. Et on faisait du porte-à-porte. Donc on a fait les blueberries. Ça, c'était par contre un autre délire encore, moins amusant et pas vraiment rentable. D'ailleurs, je me suis fait virer. Ça, c'est possible aussi. Tu peux te faire virer.
D'accord. Ouais, du jour au lendemain.
Du jour au lendemain. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Enfin, il y a un contrat de travail, mais c'est un papier. En gros, tu ramènes ton numéro de visa de travail, ton compte bancaire, et tu dis bon bah, je suis apte à travailler. Tu remplis le formulaire et tu dis bah vas-y, tu commences à récolter. Je te montre et tu es payé au rendement.
Et c'est parti.
Et c'est parti. Voilà. Et sauf que bon, bah, moi, au Blueberries, comme je suis grand et que c'est très petit et que ça me gonflait, on va dire, de le faire. Et en termes de rendement, c'était pas très rentable. Bah, comme j'en bouffais de droite à gauche aussi parce que c'était bon, bah, du coup, je me suis fait prendre et je me suis fait virer. Mais au final, c'était un mal pour un bien parce que mes amis, ils étaient finalement heureux que je me fasse virer parce que du coup, on était contents de repartir.
D'accord, donc tu voyageais avec ces potes-là dont tu
parlais, on était trois en total, donc deux, avec deux amis. On voyageait en voiture, donc on faisait de porte à porte ou de ville en ville. Bien sûr, entre deux, on visitait. Donc dès qu'on avait un jour off, parce que dans l'agriculture, faut savoir, tu peux récolter 2 jours ou 3 jours, voire 7 jours à la suite, mais du jour au lendemain, l'agriculteur nous dit bon bah là, il a plu, donc pas possible de récolter pendant 3 jours. Donc du coup, t'essaies de t'occuper, mais on s'est dit, on se faisait un plan, bon bah génial, on a 2 jours off, donc on va visiter. On va faire le tour de l'île, qu'est-ce qu'on a à voir, et du coup, d'où le Cradle Mountain donc, qu'on avait commencé avec les randonnées. On a fait des parcs naturels, des parcs sauvages.
Il y a des parcs nationaux là-bas, c'est des réserves naturelles.
C'est des réserves naturelles, donc tu as des parcs sauvages et payants. Donc tu as des campings sauvages et campings payants. Donc si tu as envie de te payer un petit luxe, donc tu vas au parking payant et tu as ta petite douche à 1 euro pour avoir de l'eau chaude, pardon, plus précisément. Et si tu veux faire du sauvage, parce que ça c'est sympa aussi, tu te dis bon bah là on va faire du sauvage et va savoir ce qu'il y a comme animal, on va rencontrer des kangourous, des opossums ou je ne sais quoi, et ça c'est à faire absolument aussi.
Alors justement, tu parles des animaux, pareil, hein, Australie, moi je me dis kangourou, c'est vraiment l'image, absolument. C'est peut-être cliché, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. Et donc en Tasmanie, est-ce que tu retrouves les mêmes animaux que sur le continent? Est-ce que tu en retrouves d'autres? Enfin, qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi la faune là-bas?
Bah là, le cliché est bien vrai. Hein. L'Australie, les kangourous, ils y sont bien. On a vu un peu partout. Et incroyable à quel point ils sont aussi... comme on peut facilement rentrer en contact avec les kangourous et quasiment les toucher. Hein.
Que dans des réserves ou comme ça?
Y a des réserves, mais également aussi dans les parcs naturels, enfin publics.
Quand tu fais ta rando, tu peux tomber nez à nez
sur des petits coins où il y a des kangourous qui se trimballent, qui font leur vie. Et puis bon, c'est là, ils sont difficiles à s'approcher, mais ils sont généralement en petite meute. Ils sont pas généralement seuls, mais en meute. Et ils font leur vie, tout simplement.
Mais je me rends pas compte, c'est quoi comme type d'animal? Ça va être craintif par rapport à l'homme ou ça va...
Ça dépend des endroits et comment ils sont élevés, je sais pas, mais il y a des kangourous qui partent dès qu'ils te voient, ça c'est sûr, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi qui sont pas du tout craintifs. On était en camping, bah t'avais les kangourous qui se baladaient dans le camping en fait, qui faisaient leur vie.
Ok, ouais, tranquille.
Et si ce n'est qu'on se retrouvait à un camping où il y a mon pote, il s'allonge à côté du kangourou, il fait sa petite sieste à côté de lui limite. Et donc quelque chose que tu t'imagines pas, mais incroyable, et tu te dis bah génial, c'est bon, j'ai pris mon petit selfie avec mon petit kangourou, et la
Elle a Alors, justement, tu parles de la proximité, etc., avec les animaux. Justement, est-ce que c'est un pays qui est très attaché justement à la conservation, à ne pas justement pas trop approcher les animaux, parce que là, tu parles de proximité.
Non, absolument. Faut pas penser que les humains exploitent les animaux là-bas. Il y a beaucoup de réserves justement naturelles où les animaux peuvent vivre en toute liberté. Enfin, la plupart des animaux vivent en liberté. Il y a des sanctuaires, bien sûr. Mais les sanctuaires, ils sont magnifiques. Franchement, c'est même pas assez. Il y a quelques zoos, mais c'est loin d'être des zoos comme on voit en France.
Comme ce qu'on imagine.
Comme on s'imagine. Ils sont vraiment bien, on veut dire, ils vivent bien, on va dire. Et en termes d'animaux, bah, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que les kangourous, faut savoir. Il y a des wallabies, il y a des opossums, il y a des coca, il y a des animaux dont je ne savais même pas l'existence. Mais ils en prennent bien soin. Ils expliquent dans chaque ville qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, à quoi il faut faire attention. Comme le plus important à savoir quand tu vas en Australie ou en Tasmanie, et surtout en Tasmanie aussi, c'est de ne pas rouler la nuit. Chose que à laquelle tu ne penses pas, c'est faut faire attention de ne pas rouler la nuit sur la route parce que les animaux comme les kangourous ou les wallabies sont attirés par la lumière. Donc, tu as besoin de la lumière, les feux, ils sont attirés par les feux et le lendemain matin, tu peux te retrouver à voir des cadavres au bord de la route, malheureusement, parce que c'est des personnes qui ont roulé la nuit et qui ont, par accident, parce que ils foncent sur les feux, faut savoir, ils foncent la nuit limite sur le feu.
Ouais, donc tu peux pas les éviter.
Tu peux pas les éviter. Et ta voiture, bah, du coup, bah, elle prend cher.
Ouais, donc, il déconseille de rouler la nuit pour protéger, justement, et puis par sécurité globale, j'imagine.
Exact, ouais, exactement.
D'accord, ok. Et donc, justement, en termes d'animaux, quel est l'animal le plus extraordinaire pour toi que tu aies vu là-bas?
Extraordinaire. En fait, je dirais, il y a les araignées aussi. Je sais pas si ça compte comme animal, mais ça.
C'est quand même une bestiole quand même qui.
Ça le sait, mais non, le plus mignon et le plus marrant dans les histoires, c'était l'opossum, quand même. Sacré animal qu'on a découvert les premières fois la nuit, en fait, parce qu'on faut, comme je te disais, on dormait dans les tentes. Il faut savoir que les opossums, en fait, quand la nuit, ils s'amusent à s'approcher de ta tente et de bouffer ce qui reste dans ta casserole. Chose où tu penses, en fait, c'est juste une casserole, tu fermes et tu laisses, et c'est pour le lendemain. Mais lui, ça, t'inquiète pas que la nuit, t'en secoues, t'entends un petit bruit de casserole, tu te dis, oh putain, il y a quelqu'un, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un animal, je vais mourir ou pas? Et tu ouvres ta tente en dessous, tu vois un petit animal tout mignon, un opossum qui te regarde et qui se dit qu'est-ce qu'il veut, et il est en train de bouffer ton reste de riz ou je ne sais quoi.
D'accord, et donc tu ranges tes affaires, clairement. Toi, t'étais en tente, c'est ça, parce que tu me parlais de voiture.
C'est ça, on était en tente, parfois à deux ou parfois seul, et c'est vrai que la nuit, y a une autre vie qui se passe la nuit, faut se dire.
Ah ouais, tu as ressenti
ça. Les premières nuits, je pense que tu dors mal, on va dire, parce que tu fais attention à chaque bruit, tu te penses. Tu commences avec les araignées à penser, oh là là, il y a une araignée qui rentre.
T'as vu des araignées énormes, colorées, etc., oui. Comme on imagine.
On a vu de ces araignées, et puis mon ami qui a une petite fourmi d'araignées, il était encore plus qu'heureux de les voir. Et on a vu de ces araignées où on n'est pas prêt de les oublier. C'est des tailles quand même assez incroyables. Après, on ne s'est jamais fait piquer ou je ne sais quoi. Hein. Mais il faut quand même faire attention. Tu tombes sur les araignées. Assez...
Et en termes de serpents, de reptiles, etc.,
on en a vu, des serpents, il y en a en bord de plage également, parfois, dans les baies ou autres. On a vu pas mal d'insectes, hein, il y a de tout. Franchement, il y a de quoi voir. Mais si tu fais attention, si tu respectes les règles, en fait, ils te disent, il y a des panneaux, serpents ou pas, et bien sûr, les serpents, ils se jettent pas sur toi, hein, ils sont dans la petite baie, ils se cachent aussi, et en pleine journée, ils s'amusent pas.
Ils ont peut-être plus peur de toi avec les vibrations du sol.
Ils ont plus peur, mais tu peux en voir, donc c'est impressionnant, t'es là, on est à 5 mètres, il y a personne d'autre entre nous, mais bon, en soi, tu peux les éviter, hein, tu fais comme tout le monde, mais c'est impressionnant à voir. Tu fais pas le malin, ça c'est sûr, mais ça fait partie de l'aventure, c'est ce que t'as envie de voir quand tu fais le tour du monde pour aller dans la nature et voir la nature. Voilà.
Alors justement, en Tasmanie, est-ce que tu as vu le fameux diable de Tasmanie?
Alors oui, on l'a vu. Enfin, je l'ai vu et on l'a vu.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à un... Il ressemble, comment dire, à un petit...
Quelle couleur déjà je
ah, c'est noir. C'est noir avec un point blanc, il me semble. C'est, comme on dit, tu sais, dans le dessin animé, est-ce que tu as vu Bugs Bunny ou le Taz, là?
Oui.
Le diable. Donc, on l'a vu. C'est assez petit. C'est comme un... je dirais pas un écureuil, parce que c'est loin. C'est comme un opossum ou un semi-opossum. C'est... comment le décrire? En fait, regardez sur Google, c'est plus simple.
C'est un peu plus grand qu'un écureuil, c'est noir.
C'est petite taille, ça a de la fourrure noire. Ça a une bonne bouche. En plus, je crois que ça a la morsure, enfin, je crois que c'est connu pour avoir la morsure la plus forte du monde, en fait. Enfin, la mâchoire la plus forte. Mais il n'y en a plus beaucoup. Donc, tu en trouves dans des sanctuaires. Tu peux en trouver dans la nature. Nous, par chance, on en a vu aussi dans la nature. Mais tu en trouves aussi facilement dans des sanctuaires et ils sont protégés. Pourquoi ? Parce que, d'où ta question, j'imagine, est-ce que tu en as vu ? C'est parce que la plupart des diables sont morts. Et d'après ce que nous avait raconté un guide, c'est qu'ils sont morts d'un cancer contagieux, en fait, à une certaine époque. Et du coup, il n'en reste plus beaucoup.
Ah ouais, ils sont morts d'une maladie, la plupart, c'est ça ?
Ouais, une grande quantité sont morts, et d'un cancer qui était contagieux entre eux, j'imagine. Et du coup, il y en a énormément qui sont morts. Il en reste une petite quantité, et du coup, c'est d'où là aussi une petite pépite de la Tasmanie aussi, également, c'est qu'il faut les protéger. Et de toute façon, ils ont l'air très agressifs, mais quand tu les attaques pas, enfin, tu les touches pas. Enfin,
ouais, c'est comme tous les animaux.
C'est comme tous les animaux, et c'est à voir. Également.
Absolument. D'accord, ok. Et en termes d'autres animaux, est-ce qu'il y a d'autres animaux particuliers que tu as vus en Tasmanie ?
Bah, on a vu des wallabies. C'est une petite version de kangourou. Okay. Trop mignon aussi. T'en vois un peu partout. Les kangourous, t'en as vu des crocodiles aussi. On en a vu quelques-uns.
Ah, il y en a aussi en Tasmanie. Je pensais que c'était que sur le continent.
Bah, il y en a... beaucoup sur le continent, tu peux en trouver quelques-uns en Tasmanie, mais bon, tu sais, il faut les chercher dans les sanctuaires. Mmh. Et sinon, il y a plein d'animaux sauvages dans les oiseaux aussi. Hein. Quand tu t'y connais dans les oiseaux, j'imagine que c'est le paradis des oiseaux. Tu peux trouver de tout. Après, je te dis pas, je connais pas les races d'oiseaux, mais c'est impressionnant parce que c'est des oiseaux que tu vois pas en Europe. Quoi.
Bah, ouais, j'imagine.
Ça va faire aussi.
Ok. Voilà. Et donc, tout à l'heure, tu me parlais de plage. Je reviens sur la partie paysage, les paysages, c'est quoi ? Il faut qu'on... Là, par exemple, si tu nous emmènes sur la plage, c'est blanc, le sable, il est blanc, il est noir, c'est de la roche.
Alors, comment c'est ? Faut imaginer, donc, on repart de la Tasmanie en grand, et au milieu, vous avez le Cradle Mountain, donc la montagne avec la nature, la montagne, la neige, la forêt, etc., la jungle. Et quand vous partez sur les côtes, il y a plusieurs endroits qui sont connus. D'une part, je vais parler surtout ça s'appelle le Coles Bay. Le Coles Bay, c'est à l'est de la Tasmanie, et plus précisément, c'est connu pour, ils appellent ça le Wine Glass Bay. Pourquoi la Wine Glass ? En fait, la presque île, on va dire, ça rattache à la Tasmanie, ressemble à un verre de vin. Un verre de vin, et la plage, en fait, c'est la tige du verre de vin, en simple.
D'accord.
Et la plage, en fait, elle est très connue pour sa longue plage avec le sable blanc et magnifique, et il y a beaucoup de vent, et du coup tu as des surfeurs, tu as les pêcheurs, t'as envie de faire te baigner. Donc
il y a de la plongée aussi, tu peux faire de la plongée.
Tu peux faire de la plongée. Après, je pense que oui, tu peux en faire, mais je recommande plus du coup l'Australie, plus à l'est nord de l'Australie, où il y a vraiment, c'est connu, réputé aussi pour faire de la plongée, près de Early Beach, la Brisbane, il y a les coraux, etc. Donc il y a pas mal de choses à voir aussi, bien sûr, en Australie. La Tasmanie, il y a aussi, mais ça, je pense que c'est surtout pour la plage, pour surfer. Les surfeurs, il y a beaucoup de surfeurs qui y vont aussi, qui se font un plaisir d'y aller. Et du coup, c'est sympa aussi pour les randonneurs, parce que du coup, généralement, Quand moi, je suis en couple, moi, je suis plus randonnée, ma copine, c'est plus plage. Donc, du coup, t'es content parce qu'il y a les deux.
Il y a les deux.
En fait, t'as la tige, le côté plage, sable blanc, où tu peux te baigner, tu peux surfer, tu peux faire ce que tu veux, boire un petit coup. Et après, juste derrière, du coup, le vert, le vert, enfin, en haut, la partie haute ou la partie basse, c'est un peu la jungle. Et du coup, tu peux refaire des petites randonnées qui sont guidées. Et dans la jungle, et tu peux monter en haut de la colline et tu peux voir la plage d'en haut. Donc c'est sympa.
Ah ouais, effectivement, ça donne envie, ouais. Et donc ça, c'est à l'est, tu
vois. À l'est, exactement. Et sinon, une deuxième chose absolument à voir, c'est en parlant de plage et semi-plage, c'est au nord-est. Ça s'appelle la baie du feu ou Bay of Fires. Et ça, c'est intriguant parce que quand tu vois ça sur Internet, tu as souvent des choses à voir, Bay of Fire, tu dis la baie du feu. Ah, ça a l'air intéressant, intriguant, pourquoi la baie du feu? Pourquoi il y a du feu là-bas?
Justement, pourquoi?
Et pourquoi? Mais en fait, il s'avère que là-bas, il y a des rochers rouges, enfin, en partie brûlés. Et ils sont brûlés, mais de couleur rouge, mais fort, fort. Donc, je vous invite à regarder sur Internet Bay of Fires. Et quand tu vois les photos, tu te dis, waouh, ok. Chose que tu ne vois pas nulle part ailleurs, c'est des rochers brûlés. Et en fait, l'histoire, parce que j'ai dû regarder l'histoire, j'essaie de comprendre pourquoi ces foutus rochers brûlés, rouges, là-bas, plantés au nord-est de la Tasmanie, pourquoi là-bas. Et en fait, l'histoire raconte que en fait, c'était des aborigènes qui faisaient leur feu là-bas le soir. Et avec le temps, si j'ai bien compris, ça devenait rouge. Et avec la chaleur, j'imagine, ça a pris cette couleur. Et j'imagine, il y a aussi quelque chose de chimique, j'en sais rien. Enfin, le côté naturel qui a fait que c'est devenu d'une couleur bien rouge, forte, quoi.
Ah ouais, c'est dingue ça, incroyable. Ouais. Et donc ça doit dater un petit peu.
Ça doit dater de je peux te dire
quelques
années. Ça doit dater des centaines d'années parce que quand ils disent aborigènes, bah les aborigènes, faut savoir que c'était les premiers habitants de l'Australie. Donc ça doit dater d'un certain temps et il y a toujours des aborigènes qui vivent là-bas, très peu, mais du coup c'était apparemment leur tradition, si j'ai bien compris, là-bas. Justement à ce point précis.
D'accord, ok. Donc ça, tu recommandes ça à voir. Et donc, tu parlais qu'il y avait du vent aussi sur les plages. C'est un peu
absolument
battu. T'as l'impression, quand t'arrives sur la plage, c'est quoi l'impression? C'est justement, tu te prends cette vague de vent.
C'est ça. Bah, en fait, c'est quand tu te retrouves au milieu, t'as beaucoup de vent. Parce que du coup, t'es au milieu, on va dire 1 ou 2 kilomètres de plage, et donc tu peux t'imaginer quand tu te retrouves au milieu, c'est sympa parce qu'il y a du passage, quoi, de vent, on va dire, et ça c'est génial pour les surfeurs. Et quand tu vas plus sur les côtés, tu peux te baigner tranquillement, il y a un peu de moins de vent.
C'est plus protégé.
C'est ça.
Donc t'as des petites baies aussi, ou c'est que des plages un peu longues comme ça?
Là, c'est une plage connue et autour de la Tasmanie, il y a quand même pas mal de petites baies. Après, je t'avoue, je me rappelle plus des petits noms. Le plus simple, c'est de prendre la voiture. C'est ce qu'on a fait. Et tu fais le tour parce qu'il y a comme des routes qui font le tour de la Tasmanie et tu t'arrêtes à des endroits insolites où il y a personne et tu te dis, tiens, bon, bah, trop cool, il y a une petite baie là, insolite, on va se baigner là.
Il y a une route qui fait tout le tour, justement?
Il y en a une ou plusieurs. Enfin, je dis pas que c'est pas comme dans le sud de la France où ça longe la côte, mais tu peux te retrouver sur la carte et tu peux facilement faire le tour. Et ta petite, et peut-être que pas tout n'est pas indiqué sur la carte, mais
il faut se perdre un petit peu.
Faut se perdre, c'est ça l'aventure.
Exactement. Voilà. Ok, et donc, oui, vas-y.
Et j'allais finir justement, il y a un dernier endroit, c'est semi-plage, mais peut-être c'était ta prochaine question, je sais pas.
Dis-moi.
C'est dans le sud, et ça c'est vraiment quelque chose où j'ai halluciné aussi, ça s'appelle Bruny Island. Je sais pas si t'as entendu de ça.
Non, pas du tout.
Bah, tu vois, moi non plus, je connaissais pas du tout. Et Bruny Island, faut savoir, c'est encore une petite île. En dessous de la Tasmanie, hein.
Ah ouais, c'est une petite île en dessous de la petite île de l'Australie, c'est ça?
C'est ça. Et tu peux y accéder, il me semble, tu peux y accéder en voiture. Et c'est rattaché
à l'île. Ouais,
c'est une petite île, tu sais, séparée, d'où Bruny Island, c'est séparé. Et c'est en dessous dans le sud-sud de la Tasmanie, en dessous de la capitale. Faut savoir que la capitale de la Tasmanie, c'est Hobart, pardon, et dans le sud-sud. Et en fait, tu pareil, tu retrouves comme une baie, enfin, tu longes une plage, et en fait, c'est impressionnant, et chose que j'ai jamais vue, en fait, c'est pour ça que je voulais le dire, et après, je te laisse reparler, c'est que d'un côté, tu vois un côté océan qui est avec une couleur de bleu foncé, vraiment foncé comme l'eau de mer, tu vois, vraiment foncé, et de l'autre côté, tu vois une eau complètement turquoise, qui vient, je crois que c'est un canal.
Ouais, incroyable. Ça se mélange.
En fait, c'est comme si tu avais une plage ou un morceau de terre qui séparait deux eaux complètement différentes. Un côté océan et un côté où tu as de l'eau bien turquoise, incroyable, super beau. Et quand tu vois ça réuni sur un champ de vision, tu te dis, ok, c'est intéressant. Ouais, parce que j'ai soit vu l'un, soit vu l'autre. Et là, tu as les deux réunis.
Et ça, c'est au bout, c'est sur cette île-là ou c'est au bout, c'est au bout de l'île.
C'est sur cette île-là et je crois que c'est au milieu de l'île, si je me trompe pas. Après, à revérifier. De toute façon, l'île, elle est pas très grande, hein. Je t'avoue.
J'imagine.
Mais c'est connu pour ça. C'est connu pour ça. Et en plus, ce qui était super, une chose qu'on a encore une fois l'aventure, c'est qu'on y était allé la journée, on voulait voir surtout ça, parce qu'il y a en fait, tu peux monter et t'as un petit phare et tu peux prendre des photos et t'as une petite vue sympa et à la tombée de nuit, enfin c'était le soir au moment où on voulait rentrer et t'as quelqu'un qui nous crie regardez, incroyable, il y a des manchots. Voilà, et on a vu des manchots.
D'accord, incroyable.
Les petits pingouins là quoi, mais trop bien.
Ah ouais, donc des pingouins en Tasmanie.
C'est ça.
Wow, incroyable.
Des manchots pingouins en Tasmanie, quoi.
Ils étaient nombreux ou t'en as vu
Ils étaient nombreux, c'était des centaines et des centaines en fait. Et on était en pleine période. Comme je t'ai dit, nous on était de novembre jusqu'à février-mars. Et justement, c'était pile poil la période où il y a les manchots là-bas.
C'était une bonne période.
On était chanceux, on le savait pas. Et du coup, c'était bien marrant parce qu'on a pris plein de photos avec des petits pingouins, enfin manchots.
Ah, c'est fou, voilà. Ça, c'est fou, on n'imagine pas du tout, enfin vraiment, moi j'imaginais pas qu'il y avait une île en dessous cette île de la Tasmanie, et en plus, et donc vous avez débarqué et,
on a
et débarqué. Tu tombes l'année avec les pingouins.
T'es déjà content, t'es heureux de voir des petits kangourous, des wallabies, après tu découvres des opossums, les araignées et autres animaux que tu découvres par toi-même, où tu te demandes c'est quoi ce truc, et en plus après tu vas sur une petite île en dessous, et dans ce coup tu découvres des manchots, où tu te dis mais ça vit pas dans le froid ce truc. C'était bien marrant parce qu'au final, c'est la diversité d'animaux que tu peux trouver là-bas. Enfin, d'animaux, c'est incroyable.
Ouais, j'imagine. Ok. Bon, c'est fou. Ça donne envie. Rien que pour la faune, ça donne envie. Et pour les paysages et la diversité, j'ai l'impression que c'est assez, assez dingue. Toi, c'est un voyage qui t'a changé. Enfin, tu sens que t'es revenu différent.
Absolument. Absolument, parce que... déjà, je m'attendais pas à tout ce que j'allais voir là-bas, et c'était pour mon expérience personnelle aussi. Je suis parti, faut savoir, avec rien du tout, quasiment, avec un peu d'argent, mais c'était pas prévu. Et j'ai appris beaucoup de choses, que ça soit au niveau des fermes, comment ça fonctionne, au niveau de la vie, au niveau des animaux, au niveau du paysage, que je pensais pas voir. Enfin, j'ai fait des pays dans le monde, mais là, la Tasmanie, franchement, si j'y retournerais avec grand plaisir, parce que je crois que c'est un endroit que tu peux pas voir nulle part ailleurs.
J'ai l'impression que c'est une pépite.
C'est une petite pépite dont j'ai peur que ça devienne comme Bali ou d'autres îles où tu te dis ça y est, c'est là-bas que je veux aller et que maintenant c'est débordé de touristes. Mais incroyable.
Surtout que t'as fait le continent aussi avant et après.
Exact. À la base, c'était l'Australie, déjà le continent en soi qui est magnifique et à découvrir avec les Australiens la culture, parce qu'on pourrait en parler des heures de la culture là-bas et des choses que tu peux faire. Mais je recommande.
Et donc, si je te donnais les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de cette aventure, ce serait lequel, Joe ?
Alors, bonne question. En fait, il m'est arrivé un truc là-bas incroyable que je croyais pas mes yeux, et franchement, je crois que ça se voit que là-bas. Et pas quelque chose de joyeux ou quoi, mais impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, en Tasmanie, il y a un musée qui s'appelle le Musée des Nouveaux et Anciens Arts. Et c'est super beau, je recommande vraiment. Mais qu'est-ce que j'ai vu là-bas et pourquoi je t'en parle maintenant ? C'est que j'ai vu un homme assis, tatoué. Et pourquoi tatoué ? Mais en fait, cet homme assis tatoué avec plein de choses, des créatures, des couleurs, etc. Mais du haut au bas, c'est vraiment tout son corps en fait, hein, du crâne jusqu'en bas du pied. C'est qu'il a été tatoué et il a vendu sa peau à un riche européen. En fait, il a vendu sa peau et a accepté de s'asseoir en fait 6 heures par jour dans ce musée pour que les gens puissent le voir, le contempler, voir sa peau.
Arrête.
Et ses tatouages gravés à l'encre, si je me souviens bien, c'est ça, parce que je suis pas un expert de tatouage, mais je trouvais ça impressionnant, tu vois, pour te dire, moi je suis pas tatoué, mais je trouvais ça impressionnant, et surtout l'histoire que ce mec est assis vraiment 6 heures par jour sur son siège, et pour que les gens puissent regarder son corps, et il avait écrit que, et il parle pas, hein, il te parle pas, il te regarde pas, hein, genre le mec il est concentré, et il est payé pour ça, et il s'avère que, si j'ai bien compris, une fois que il va mourir un jour, hein, et l'art dit que, enfin, sur le panneau il y a marqué, une fois que cette personne va mourir, la peau revient au musée, ça veut dire que sa peau sera exposée au musée. Mais du coup je me disais, waouh, franchement si j'ai la chance... C'est pour ça que j'ai retenu ça. Je me dis, ouais,
oui, j'imagine.
S'il s'avère qu'il lui arrive quelque chose, je ne sais quoi. Parce qu'en plus, du coup, le guide nous expliquait aussi dans le musée que le mec, il est assuré. Hein. Sa peau est assurée. Donc, il doit faire attention à ce qu'il veut. Il ne peut pas se baigner. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, quand même, c'est comme si tu avais vendu ton corps
à quelqu'un,
quoi. Tout ça pour être tatoué, pour être assis 6 heures par jour. Donc, déjà, tu te poses, qu'est-ce qu'il a fait dans... Qu'est-ce qui se passe dans sa tête?
Mais donc, attends, que je comprenne bien. Ah, il a vendu donc sa peau.
Sa peau, voilà.
Et donc à cette personne, cet Européen, et cet Européen donc a payé pour que le gars reste dans le musée, exposé.
Je crois, si j'ai bien compris, en fait, il a vendu ça. Je ne sais pas quelle somme, j'espère beaucoup, mais on va dire quelques centaines de milliers, par exemple, et lui a donné l'argent, en gros, pour se faire graver, et il a accepté de se faire graver comme la personne le souhaite. C'est de l'art, hein. Et en soi, c'est beau, mais c'est horrible. Enfin, je sais pas, c'est tout à la fois. Et par contre, le musée, si j'ai bien compris, le paye quand même par heure, comme un salarié, parce qu'il faut qu'il vive aussi.
Ah, et c'est son job, en fait.
Son job d'être assis la journée et pour que les gens puissent le voir. Et je me suis toujours dit, putain, si jamais il lui arrive quelque chose, bon, la première chose que j'ai envie de faire, si je retourne en Tasmanie, c'est retourner dans ce musée et voir si cette peau est accrochée au mur.
Ah oui,
mais c'est à la fois horrible et à la fois incroyable, beau. Je sais pas comment
l'interpréter. Ouais, ça doit être fascinant et en même temps.
Quand tu me dis à revivre, je sais pas, mais à voir en tout cas. Et ouais, je regrette pas de l'avoir vu. Et si je retourne, c'est sûr que j'y retournerai voir s'il est toujours là. En fait.
Ok, incroyable. Et donc, du coup, si tu devais résumer ce voyage en une seule citation, une punchline ou une phrase de ta propre création, ce serait laquelle?
C'est relié à tout mon voyage, mais je dirais quand on veut, on peut. C'est-à-dire, pas seulement le voyage en Tasmanie, mais l'effort, le souhait de partir loin et de découvrir et de voyager avec rien, au final, juste avec mon sac à dos, et choses où tu te dis, ouais, tu as quelqu'un qui te raconte, ouais, il est parti avec rien du tout, blablabla, et tu te dis, ouais, c'est ça. Mais au final, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et je ne pensais pas que j'allais le faire, mais quand on veut, on peut, dans le sens, j'y suis allé, j'ai certes travaillé, j'ai pu travailler, j'ai gagné mon argent, on a vécu des choses incroyables avec mon ami sur place, à découvrir des animaux, tout l'ensemble, et c'est vraiment ce que je retiens, parce qu'au final maintenant, chaque jour qui passe, je me dis, bon bah si y a un obstacle, bah je me dis, bah si je le veux, bah je vais y arriver.
Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup Joe pour ton partage d'expérience.
Avec plaisir.